Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Interactualité ce matin, comme Marilus vous l'a annoncé au début du journal, l'affaire du barrage de Pascano sur l'Artibonite. Hier, au cours de la journée, nous avons diffusé une information en provenance de l'Artibonite, entre guillemets, et intitulée « SOS aux travaux publics ». Je vais, pour la compréhension des choses, vous donner à nouveau lecture de cette dépêche qui a été diffusée sur beaucoup de stations de radio et qui émane d'un correspondant ou de la Petite Rivière ou de Verrette. Le 11 octobre en cours, dit la dépêche, et je cite, « Il s'est produit à Pascano une terrible inondation. Les siphons souterrains sont en proie à l'effondrement. Rien qu'en 2 jours de pluie consécutive, le fleuve Artibonite a pu envahir les champs de riz. Les paysans ne peuvent pas traverser. Ils attendent du secours dans l'urgence. » Et cette dépêche poursuit. « Les techniciens de l'ODVA font le va-et-vient pour essayer d'apporter une solution précaire à longue échéance, puisque la situation critique a déjà pris des proportions très inquiétantes à Pascano. Tandis qu'à Détréguette, sur la route Digue reliant Ponsondé à la petite rivière de l'Artibonite, le même fleuve dévastateur est prêt à couper la route en deux pour inonder des centaines de carreaux de terre. » Avec une note. Ces effondrements augmenteront la crise des denrées alimentaires pour favoriser le marché noir en Haïti, et si la route Digue est coupée, la Nationale 1 sera elle-même inondée. Prévenir vaut mieux que guérir, commente la dépêche. Le service compétent n'a qu'à venir mener une enquête s'il ne veut pas nous croire sur parole. Une inondation a déjà eu lieu, une autre est sur le point d'éclater, on attend. Cette longue dépêche commentée de son auteur a immédiatement provoqué une réaction, celle très justifiée du journaliste, de se rendre sur les lieux. À 11h du matin, je prenais la route et j'arrivais vers 2h30 à l'ODVA à Ponsondé. Pourquoi cette hâte à aller moi-même sur les lieux voir comment les choses se passent? On se souvient qu'en 1973, en effet, au même barrage de Pascano, une inondation avait provoqué d'énormes dégâts et, réaction en chaîne, un problème d'approvisionnement en riz. L'agronome René Destin, directeur général de l'organisme de développement de la vallée de l'Artibonite et aussi directeur de l'organisme de développement de la plaine des Gonaïves, que j'ai rencontré à 2h30, a éclaté de rire. Quand il m'a vu, il m'a dit « Tu es venu pour Pascano ?» Évidemment, agronome Destin, je suis venu pour Pascano. Eh bien, bon, je vais t'emmener à Pascano et tu verras que les journalistes exagèrent à plaisir les informations. À quelle fin, je ne sais pas. Cela m'a rassuré, évidemment. Et après environ 1 heure d'une route très dure pour les reins, j'ai pu voir de mes yeux ce qu'était Pascano. Un admirable travail d'art sur la rivière Artibonite, avec une admirable équipe au travail, et non des gens qui faisaient le va-et-vient, une admirable équipe au travail qui a travaillé 24 heures sur 24 depuis le 11 octobre pour rétablir, avec une précision scientifique, aidée par des techniciens haïtiens entraînés, des techniciens avertis, dont l'ingénieur Maxime Léon, et l'ingénieur Robert Burry, au travail autour de ce barrage de Pascano. À 6 heures, lorsque nous sommes repartis, la porte était levée, les eaux du fleuve s'écoulaient, disons presque paisiblement, et l'agronome René Destin pouvait envoyer au président à vie de la République son message « Tout est en ordre, tout est sous contrôle ». L'agronome Destin a très gentiment voulu répondre à nos questions, ainsi que l'ingénieur Robert Burry, qui, tous les deux, avec beaucoup d'humour, malgré les 72 heures d'un travail acharné, entouré d'une équipe, elle aussi souriante, malgré ce labeur très dur et les inquiétudes des premières heures, car des inondations en perspective, ce n'est pas pour faire sourire des gens qui ont la responsabilité de toute une vallée. Cependant, quelques précisions. Les siphons souterrains n'ont jamais été menacés. Jamais. D'une part. D'autre part, cette crue du fleuve Artibonite n'a pas pour origine des pluies sur la région, qui, comme le dira tout à l'heure l'agronome Destin, était parfaitement bénigne. Cette crue du fleuve Artibonite vient de la situation atmosphérique qui a régné en République dominicaine et qui a augmenté le débit du fleuve Artibonite à sa source, ainsi que les affluents dominicains, Guayamunk et autres, de ce fleuve. Il y a donc là une rectification extrêmement importante à faire, car ce n'est pas la montée des pluies sur l'Artibonite qui a provoqué la montée des eaux sur le fleuve. Voilà donc le témoignage de l'agronome René Destin, sur place, à Pascano, aidé de la collaboration très efficace de l'ingénieur Robert Burry. Je vous signale que l'ingénieur Maxime Léon venait de laisser Pascano après 12 heures de travail acharné pour aider de ses conseils techniques l'équipe qui elle-même était à pied d'œuvre.
Des techniciens et des ouvriers qui a été soulevé pour permettre le dégagement du flot majeur. Actuellement, ce flot a été dégagé. Il est environ 4h20 et après 12 heures de travail, ce flot a été dégagé et nous allons demander d'abord au directeur de l'ODVA, l'agronome René Destin, de nous faire le point de la situation. Agronome Destin, comment se présentent les choses en ce moment?
À ce moment, je peux dire que tout est normal puisque la porte est ouverte. Nous avons coupé l'irrigation pour nous permettre de reconstituer la route, de réaménager la route de la petite rivière qui a été endommagée. Mais sur le plan de l'irrigation, il n'y a aucune inquiétude puisque la porte est ouverte. Et présentement, on est disposé à recevoir n'importe quel volume d'eau que pourrait charrier l'Artibonite en crue.
Vous dites que n'importe quel volume d'eau que pourrait charrier l'Artibonite en crue. Mmh. Mais il n'a pas plu inconsidérément sur l'Artibonite ces derniers jours. D'où venait cette crue insolite, agronome Destin?
Comme vous le savez, on a enregistré ces jours derniers des perturbations atmosphériques qui ont causé des inondations dans la partie sud de la République dominicaine. Et vous savez que l'Artibonite a sa source à la République dominicaine. Les inondations sont arrivées et nous ont charrié un volume d'eau alors que la porte n'était pas entièrement ouverte, ce qui a permis à l'excès d'eau de passer par-dessus bord et de remplir le lit majeur du fleuve. Alors, ces gens qui se sont affolés ont vu l'eau se déverser sur la partie amont, la partie en béton du canal qui irrigue
la rive gauche.
La rive droite. Et alors, maintenant qu'on a ouvert la porte, tout est rentré dans l'ordre et je crois que la situation est normale.
Bon, alors, nous parlons d'ouvrir la porte. Justement, il y a à nos côtés l'ingénieur Burry, que Radio Haïti d'ailleurs avait contribué à appeler. Nous avons lancé des appels, oui. Ingénieur Burry, pourriez-vous nous décrire les différents travaux auxquels vous avez participé durant ces dernières 12 heures pour résoudre le problème de cette porte?
Non, voilà, donc il y a plus de 12 heures. Parce que nous sommes sur la balle depuis lundi soir, quand nous avons enregistré les coups de l'Artibonite. Alors depuis lundi, donc nous sommes attelés à placer des poulies différentielles pour nous permettre de soulever la porte qui était sous eau. Mais alors on n'a pas pu y arriver parce que nous n'avons que des poulies différentielles de 8 tonnes. Donc or sur la vanne, donc il y avait plus de 32 tonnes d'eau qui passaient par-dessus.
32 tonnes d'eau.
Oui,
32 tonnes d'eau. Mais je vois à côté que vous avez dû dégager aussi des éboulis. L'eau a certainement emporté des gravats et même beaucoup de pièces érodées. Des arbres?
Oui, exactement. Donc ce sont ces arbres-là qui se sont accrochés
à la porte.
À la porte. Alors, qui a encore augmenté
la difficulté de l'opération. Quel est le poids de cette porte-là?
La porte est de 120 tonnes.
120 tonnes.
Mais avec
les apports d'alluvion?
Non, le système de rotule. Mm-hmm. Donc, alors, on n'a pas besoin de... enfin d'une trois fois tonnage pour sauver, parce que nous, la porte, nous avons un contrepoids qui balance le poids de la porte.
Le poids de la porte. Et actuellement, la porte a été soulevée. La porte a été soulevée, a permis de dégager ainsi le flot de la rivière. Mais est-ce que l'agronome d'Estaing pourrait faire un petit peu pour nous le bilan des dégâts, entre guillemets, si dégâts il y a à l'agronome d'Estaing?
En principe, on peut pas dire qu'il y a eu des dégâts, puisque on n'a pas eu d'inondation à proprement parler. Il n'y a que le bassin qui se trouve en amont de la porte qui a été rempli outre mesure, et il y a un exutoire naturel qui a permis l'écoulement des eaux. Il n'y a pas eu de plantation détériorée, donc la situation sur le plan des dégâts, on peut dire que...
C'est la route d'inspection
que nous devons rétablir. Le seul petit dégât dont on puisse parler, c'est la route qui conduit à la petite rivière qui a été coupée, que nous allons réaménager à partir de demain matin.
Très bien. Vous parlez d'un exutoire, c'est celui que je vois là, en amont sur la rive droite du fleuve. Il y a peut-être, disons, un quart de carreau qui comporte encore quelques traces de cet apport d'eau. C'est bien cela,
c'est ça, c'est bien
bon,
ça.
En dehors de cela, les plantations n'ont pas été affectées.
On
a aussi parlé du siphon qui relie le grand coursier de la rive gauche à la rive droite. Siphon-là. On a aussi parlé de l'effondrement éventuel de ce siphon. Qu'en est-il, l'agronome d'Estaing?
Non, le siphon fonctionnait jusqu'à ce matin encore. Jusqu'à présent, il peut fonctionner. Mais étant donné qu'on vient d'ouvrir la porte, il n'y a plus d'eau dans le siphon, mais le siphon est en état. Nous allons simplement arrêter l'irrigation pour 2 jours pour nous permettre de refaire la route, de rétablir la communication avec la petite rivière et de combler, de nettoyer la porte avec tous les débris d'arbres qui y sont encore attachés, parce que de l'autre côté, il y en a encore des débris. Mm-hmm. Et après quoi, d'ici vendredi, l'irrigation reprendra normalement.
Bon, on parlait de ce siphon. Quelle est la différence entre la situation qui s'est produite en 1973 et celle qui s'est déclenchée lundi 11 octobre?
On peut dire qu'on a enregistré les mêmes causes, mais la durée n'est pas la même. Parce qu'en 1973, le siphon avait été inondé assez longtemps, pendant une très longue période, alors que cette semaine-ci, nous n'avons eu que 24 heures d'inondation. On n'a pas eu le temps d'avoir cette infiltration qui aurait rongé le dessous du siphon et qui aurait détruit l'équilibre pour endommager le siphon.
Donc, lorsque l'on parle d'affaissement du siphon, cela ne correspond pas à la réalité.
Non, il n'en est pas question. Le siphon est fonctionnel. Le siphon n'a pas été endommagé. N'a pas été du tout endommagé.
Voilà donc l'état de la situation tel qu'il a été fait par les deux techniciens en charge de ce barrage à Pascano, l'agronome René d'Estaing, directeur général de l'ODVA, et l'ingénieur Robert Burry, son collaborateur immédiat pour ce qui est des questions de génie. Vous avez entendu cette mise au point des deux techniciens qui étaient sur place à l'heure où j'enregistre cette interview et qui ont travaillé depuis le 11 octobre. La modestie de l'agronome d'Estaing n'a pas permis de préciser la différence exacte entre la situation en 73 et la situation en 76. Vous me permettrez de donner mon point de vue. C'est que la différence capitale, c'est que dès que les eaux ont commencé à monter et menacer le barrage, les techniciens étaient sur place pour travailler. C'est ça la différence. Ce qui fait que le siphon n'a pas été inondé, c'est que immédiatement, toutes les autorités de l'organisme de développement de la vallée de l'Artibonite, tous les techniciens ont été sur place, les travailleurs, les ouvriers, les contremaîtres étaient sur place et ils ont travaillé d'arrache-pied toute la nuit, toute la journée du 12 et toute la journée du 13. Voilà donc la différence capitale. Et c'est sur cet aspect humain de la question que je tiens à revenir dans quelques minutes pour vous faire en bref un petit reportage sur cette vallée de l'Artibonite qui aurait été inondée. Je peux vous dire tout de suite que je me suis promené en jeep aux côtés de l'agronome d'Estaing et du capitaine Aristen, commandant du sous-district de Saint-Marc et responsable de la sécurité dans la zone, je me suis promené en jeep le long des routes digues de la vallée et j'ai pu voir cette vallée verdoyante avec une récolte de riz prometteuse, aussi avec des taches ça et là de plantations de maïs, de plantations de pois congo, de plantations de kalalou, d'okra comme on dit, mais aucune trace d'inondation, aucune trace de désolation, au contraire, une terre d'espoir. À tout à l'heure pour ce reportage. Radio Haïti Inter, plein feu sur l'Artibonite. Il faudra commencer ce reportage par la chanson que vous connaissez bien, Artibonito. Artibonito, soleil a pas malade. Soleil a là, soleil a campé, et soleil a ap donné récolte. Récolte de riz, comme vous le savez, car la vallée de l'Artibonite, c'est le réservoir rizicole de notre pays. C'est en fait le grenier à riz du pays, avec une récolte de 150 000 tonnes de paddy actuellement. L'agronome des Saints que j'ai interrogé se réfère aux statistiques des services d'alimentation pour dire que la consommation de riz dans le pays est estimée à 60 000 tonnes de riz moulu. C'est préciser ainsi que les 150 000 tonnes actuelles sont susceptibles, dans quelques mois, de satisfaire la consommation normale du peuple haïtien en riz. Rappelons-nous qu'en 1973, l'on avait été réduit à une consommation, à une importation massive de riz en franchise pour satisfaire la consommation. Il y a donc là la première lueur d'espoir. La seconde lueur d'espoir, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un problème humain. En effet, l'agronome Destin nous a signalé que l'organisme de développement de la vallée de l'Artibonite, depuis sa remise en état, sa réactivation, sa réjuvénation, a repris en main les terres de l'État et les terres de la vallée soumises à son autorité et a permis, grâce à un encadrement paysan valable, la réactivation de la production. Le total des terres dans la vallée est de 32 000 hectares. Le total des terres sous culture est de 26 000 hectares, qui peut passer en saison pluvieuse à 28 000. Signalons que sur ces 32 000, 30 à 31 000 hectares sont irrigables. L'organisme de développement de la vallée d'Artibonite, aidé par les conseils communautaires, il y en a environ 185 à travers la vallée, permet aux paysans de recevoir l'encadrement technique qu'il faut pour traiter les problèmes d'infrastructure de sa terre, dont le problème capital est constitué par le drainage. Pendant l'abandon de la vallée, cette longue période d'incurie, le paysan avait eu tendance à combler les drains et les canaux d'irrigation pour y cultiver du riz. Ce qui, réaction en chaîne, provoquait une dégradation de la production par suite des mauvaises conditions de végétation du plantule de riz baigné d'une eau saumâtre, d'une eau verte, et ne pouvant pas donner exactement la récolte attendue. L'OLVA a repris les choses en main, entrepris un programme immédiat de réactivation de l'infrastructure, réaménagement de cette infrastructure, en fouillant, creusant les drains, en les mettant à jour et en permettant ainsi à la plantation de s'effectuer dans des conditions scientifiques. La technique elle-même est sur place, avec un encadrement agronomique extrêmement serré sur le tissu végétal, des agronomes que j'ai vus immédiatement travaillant, encadrant les paysans, leur donnent les conseils qu'il faut, leur fournissent les engrais d'après un système que nous exposerons, j'espère, demain dans la deuxième partie de ce reportage. Et ensuite, il y a la lutte contre les maladies prédatrices du riz, particulièrement les rongeurs et les manansaras. Pour ce qui est des rongeurs, signalons que les techniciens nous apprennent que les rats consomment environ 20% de la production. Il faut donc, chaque année, avant les récoltes, une campagne harmonieuse, articulée, s'étendant sur tout le tapis végétal, de dératisation. Là encore, les mouvements communautaires sont très actifs et permettent le contrôle quasi total de cette infestation de rongeurs. Le problème des Banansara, et bien là, l'agronome d'Estin, en bon agronome, a souri. Il nous a dit, écoutez, jusqu'à présent, les Banansara ne représentent pas un danger significatif du point de vue statistique pour la production. Certes, les Banansara sont des prédateurs, mais nous avons les techniciens chinois. Et les techniciens chinois, comme tout le monde sait, dans la culture de leur peuple, font des Banansara un plat de luxe à leur table. Il faudrait donc penser, comme l'a dit une amie à mes côtés, à avoir beaucoup plus de Chinois dans la vallée pour manger beaucoup plus de Banansara. La mission chinoise est très active, très efficace. Elle permet, dans deux centres de réactivation semencière et de prolifération semencière, l'application de méthodes culturales qui ont donné aux paysans une ouverture plus large sur la production. En effet, les techniciens chinois, qui, comme vous le savez, ont une longue pratique de la culture du riz, ont introduit des variétés nouvelles, mais l'agronome d'Estin n'est pas très enthousiaste sur ces variétés à grains courts. Il a recommandé des variétés indica à grains longs qui satisfont davantage le goût du consommateur haïtien. Mais là où les techniciens chinois ont eu du succès, c'est dans les méthodes culturales, la pratique culturale. En effet, la technique du riz telle que pratiquée sur repiquage après plantation, après semis sur planche, était une technique qui comportait des pertes considérables au repiquage. Les techniciens chinois ont appris aux paysans, qui s'est plié à ces nouvelles pratiques, ont appris aux paysans à cultiver après semis sur pépinière et à repiquer d'une façon beaucoup plus rationnelle, ce qui récupère une quantité considérable de plants. D'autre part, la technique de récolte, elle aussi, apprise par les Chinois, permet aux paysans de ne plus couper seulement l'épi de riz, la grappe de riz, mais de faucher tout le plant qui sera par la suite battu dans des aires spécialisées. Ce qui permet d'économiser et du travail, et du temps, et aussi d'économiser une grande partie de grains. Je rentre dans ces détails techniques qui vous paraîtront rébarbatifs, mais pour vous montrer que dans la vallée actuellement, il y a un investissement humain et technique considérable, ce qui sous-tend un investissement de générosité énorme et très significatif quand on pense à l'indolence générale que nous connaissons à travers le pays. Investissement de générosité à tous les niveaux. En effet, la situation sociologique, économique, la situation agraire dans la vallée était, il y a très peu de temps, presque explosive. L'on se trouvait en face de réclamations de paysans qui pouvaient et qui devaient, dans certains cas, dégénérer en mini-jacqueries. Des paysans spoliés dans leurs droits de propriété, dans leurs droits d'exploitation, grugés à mort par des flibustiers de la terre, par des ayants droit, entre guillemets, s'étaient réfugiés dans une sorte d'apathie, d'indolence, parce qu'ils ne voyaient plus les fruits de leur récolte. Récolte qui était régulièrement ponctuée de prises intempestives de ces ayants droit qui croyaient à bon droit être maître de la terre. À Beaucozel, vous vous souvenez que dans un journal, on avait parlé d'une révolte paysanne qui avait affronté avec des machettes des troupes envoyées de Saint-Marc. Eh bien, quand j'ai parlé de Beaucozel à l'agronome d'Estin et au capitaine Aristen, ils ont tous les deux souri. Ils m'ont dit, agronome Dominique, revenez bientôt dans la cinquième section rurale de Saint-Marc et vous pourrez voir de vos yeux, comme le président à vie de la République l'a vu récemment, les paysans paisibles, calmes, détendus, travaillant sur leur terre et récoltant les fruits de leur travail. Le capitaine du sous-district a ajouté, il y a quelques jours, nous avons pu cueillir un dernier trouble fait. Quelqu'un qui possédait en titre 5 carreaux de terre et qui rançonnait 50 carreaux de terre. Nous l'avons mis sous corde, il est actuellement à Saint-Marc et l'agronome d'Estaing a souri lui aussi en disant « C'est le représentant d'une époque révolue ». J'ai eu à ce moment-là une chaleur particulière au cœur. Je me suis dit « Eh bien, il semble que quelque chose vraiment bouge dans la vallée. Nous assistons à ce que l'on pourrait appeler le début d'une révolution tranquille, la révolution verte. Nous en parlerons demain, plus en détail, pour insister sur quelques points. D'abord, l'application de la loi du 28 juillet 1975, qui permet aux techniciens de l'ODVA d'avoir en main un instrument juridique leur donnant la possibilité de remettre aux exploitants, c'est-à-dire aux paysans parcellaires, de remettre à ces paysans leurs parcelles de façon à ce qu'ils jouissent du fruit de leur travail. Premier point donc, à souligner demain matin, l'application de la loi du 28 juillet 1975. Second point, l'action des mouvements communautaires. Et troisième point, l'action de la nouvelle direction de l'organisme de développement de la vallée de l'Artibonite, un organisme haïtien travaillant pour le progrès du paysan de la région.